et bienvenue à ce podcast du CEDIL en français. J'ai le plaisir de recevoir les deux éditrices du nouveau numéro de la revue Babylonia. Le numéro 1 de 2024 qui thématise le maintien et l'apprentissage des langues d'origine des migrants de première et deuxième génération. Il s'agit d'une thématique actuelle, pertinente pour la linguistique et l'enseignement des langues, mais aussi très politique. J'ai donc le plaisir d'accueillir Veronica Sanchez, chercheuse à l'Institut de recherche et documentation pédagogique de Neuchâtel et qui enseigne la didactique de l'espagnol à l'Institut universitaire de formation des enseignants à Genève. Bonjour Véronica.
Bonjour André.
Et Amélia Lamblay, qui est chercheuse à l'Université de New York et qui est également l'éditrice en chef de la revue Babylonia. Bonjour Amélia.
Bonjour Audrey.
Ce numéro de Babylonia propose un état des lieux sur la maintenance des langues d'origine des enfants de migrants en Suisse. Quelles étaient vos attentes lors de l'envoi de l'appel à contribution et qu'avez-vous observé lors de la réception des propositions?
Merci pour cette question, en fait, parce que ça nous permet d'entrer vraiment dans le sujet. C'est une thématique, comme tu viens de le dire dans l'introduction, qui est très actuelle, qui a suscité un intérêt croissant depuis quelques années. Il y a deux handbooks qui ont été publiés récemment par des grandes maisons d'édition sur la thématique. Il y a des revues, des numéros de revues linguistiques qui ont été consacrés de manière spécifique à ce sujet. Et il y a plusieurs conférences qui sont organisées dans ces moments, qui ont été organisées récemment. Il y a un grand congrès qui aura lieu en mai à Istanbul sur la thématique. Alors, c'est quelque chose de très actuel. Et honnêtement, mes attentes, c'était de savoir qu'est-ce qui s'est passé au niveau suisse, quels étaient les intérêts, quelles étaient les lignes de recherche, de savoir s'il y avait vraiment des projets de recherche en cours et de pouvoir donner des visibilités à ces projets, à ces études, et, dans ce numéro de la revue.
Oui, moi je pourrais peut-être juste compléter sur ce que nous avons reçu. Donc je suis tout à fait d'accord avec Véronica quant aux attentes. Et ce qu'on a reçu, en fait, on avait énormément de propositions qui venaient plus du domaine de l'éveil aux langues que véritablement des cours LCO. Donc on a été assez surprise. Donc on s'est dit que peut-être on a été obligé de les refuser pour des questions pratiques. Et on s'est dit que peut-être un jour il faudra qu'on fasse un numéro de nouveau sur l'éveil aux langues parce que ça intéresse aussi pas mal de gens. Et puis, moi, là où j'étais vraiment contente, c'était qu'on a reçu des nombreuses propositions qui venaient vraiment du terrain, donc en particulier d'enseignantes LCO, qui nous parlaient de leurs pratiques, qui nous parlaient de leurs expériences. Et puis, c'est assez nouveau, je trouve, d'avoir pour Babylonia autant de propositions qui nous viennent du terrain.
Merci beaucoup. L'inégalité des locuteurs et locutrices face aux différents prestiges accordés aux langues d'origine ressort aussi clairement dans ce numéro. Quels sont les apports majeurs des articles qui traitent de cette problématique?
En fait, cette inégalité, elle est apparue surtout en termes de langue et de cours LCO qui étaient présentés dans les articles. La majorité des articles qu'on a reçus portaient sur le portugais du Portugal. Aucun, disons, je ne sais pas, sur le swahili, le quechua ou autre. La communauté portugaise du Portugal en Suisse, elle est en effet très bien organisée. Donc les cours LCO sont chapeautés par l'Institut Camões, pas par des organisations de parents, comme c'est le cas pour d'autres langues, comme par exemple le portugais du Brésil ou d'autres langues. Et en fait, il faut noter que cette disparité en termes du nombre d'articles qu'on a reçus, elle peut aussi peut-être venir de notre manière de disséminer le call. Si on a reçu beaucoup d'articles du portugais du Portugal, c'est aussi parce qu'on a en fait des contacts dans la communauté portugaise, on a des contacts dans certaines communautés et pas dans l'autre. On a envoyé notre call dans des listes de distribution, on a compté sur notre propre contact dans les communautés, on a compté sur l'effet boule de neige. Mais en fait, c'est certainement dommage, mais il y a certaines communautés qui sont en fait peu ou pas du tout servies par la recherche académique, avec lesquelles on n'est pas du tout en contact, et c'est en fait extrêmement difficile d'entrer en contact. Après, je peux tout à fait comprendre pourquoi ces communautés ne sont pas servies. Enfin, ça vient dans les deux sens. D'une part, nous, on fait peut-être en tant que chercheurs pas l'effort d'aller trouver des interprètes ou d'apprendre certaines langues pour pouvoir entrer en contact avec certaines communautés. On ne fait peut-être pas l'effort d'aller dans les réunions qui s'adressent aux parents. Enfin, c'est tout un travail pour pouvoir entrer dans une communauté donnée. Peut-être que nos autres chercheurs ne le faisons pas. Et puis, il y a aussi le côté du côté de la communauté immigrée qui ne font pas forcément confiance aux chercheurs, qui n'ont pas forcément envie d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient faire de la recherche, qui vient s'intéresser à eux. parce que certains n'ont pas de papier, pour différentes raisons, ils ont autre chose à faire que faire de la recherche, etc. Et je pense que ce prestige accordé aux langues ressortait dans nos numéros à cause aussi de ce problème d'accès.
Et si je peux me permettre de compléter, en fait, cette inégalité, c'est vrai aussi, se rendre évidente aussi dans les articles qui thématisent ou qui évoquent les représentations. Parce que, par exemple, il y a le cas, il y a un article qui s'intéresse au cours LCO d'espagnol de l'Amérique latine. Et en fait, là, même s'il s'agit d'un cours qui est organisé par les parents, ce n'est pas le même cas que le Portugais de Portugal organisé par l'ambassade, par l'Institut Camões. C'est vraiment une petite initiative, si l'on veut. Mais en fait, les personnes interrogées dans le cadre de cette étude mettent en avant des valeurs et des représentations très positives associées à l'espagnol. En revanche, après, quand l'article de Reiser, Bello et Keller montre que d'autres langues qui ne jouissent pas d'un prestige social similaire sont également associées à des représentations différentes, complètement différentes. Les locuteurs et les locutrices interrogés dans les cadres de l'étude de Reiser, Bello et Keller ne jugent pas important de mobiliser ces langues dans des espaces autres que la famille. Ils n'en voient pas l'utilité vraiment. Et en fait, le maintien de ces langues et leur étude ne font pas l'objet de la même attention de la part de la recherche et ne sont pas valorisés de la même manière dans la société. Je trouve qu'il y a une sorte de romanticisme quand on traite les langues d'origine. On pense au lien des langues d'origine et les locuteurs des langues d'origine. Je pense que c'est assez complexe, en fait. Ce n'est pas possible de romantiser, si je peux me permettre le terme, le lien entre les locuteurs, les locutrices et leur langue d'origine. Parce que le problème peut être différent pour chaque langue en termes politiques, en termes sociaux et en termes éducatifs aussi.
Merci beaucoup. Donc, vous avez déjà beaucoup thématisé la question de cours de langue et culture d'origine. Et effectivement, vous avez dit qu'il y avait quelques articles, pas forcément beaucoup, et spécialement sur certaines langues très présentes dans le paysage suisse. Vu que c'est une thématique assez importante et qui intéresse nos auditeurs et auditrices, pourriez-vous résumer quels sont les questionnements et les connaissances actuelles peut-être et quelles solutions y sont apportées dans les articles du Nouveau Babylonia?
Alors, je crois que ce qui ressort des articles, c'est que le développement des cahiers Shader en 2016 a été un grand pas en avant pour les cours LCO, parce qu'ils permettent de vraiment donner un cadre méthodologique à la grande variété de méthodes qui apparaissaient dans les cours et qui apparaît toujours dans les cours LCO. Mais comme chaque langue est organisée d'une manière différente, de manière plus ou moins institutionnelle, de manière plus ou moins bien organisée, il y avait vraiment une grande variété au niveau des méthodes. Et puis ces cours, ces cahiers Shader, pardon, permettent un petit peu d'unifier. Et on a un des articles qui présente vraiment précisément ces supports. Puis la manière dont les enseignants se les sont appropriés, comment ils les ont utilisés. On a des exemples qui viennent d'enseignants portugais, donc du Portugal de nouveau, et d'une enseignante italienne. Et aussi comment les hautes écoles pédagogiques ont repris ces cahiers Shader pour créer des formations s'adressant aux enseignants LCO. Ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. Je pense que Véronica a plus à dire.
Oui, non, mais je suis d'accord. En fait, et ce qui ressort très, très clairement, c'est la question du matériel mobilisé dans les cadres des cours LCO. Il y a par ailleurs un autre article de Silva Harmeyer qui traite justement l'enseignement des portugais du Brésil dans un autre contexte et qui problématise justement l'élaboration des matériels d'une séquence didactique de la de comment ça fonctionne avec les élèves, avec les enseignants, c'est assez intéressant aussi. Mais après, pour aller au-delà du matériel, en termes d'approche presque, il y a un article de Minichi qui présente justement l'évolution historique de cours des langues et cultures d'origine de l'italien, qui montre justement comme il y a eu un changement de rôle social de ces cours, mais que ce changement de rôle impliquait aussi un changement de la perspective didactique, disons. Si on pense au début de ces cours ont été créés dans les années 70 comme une réponse à la situation des travailleurs migrants qui venaient en Suisse et que, une fois le contrat était fini, ils devaient rentrer dans leur pays d'origine. Alors, les enfants de ces travailleurs devaient aussi se réintégrer à l'école dans leur pays d'origine. Du coup, ils devaient être préparés pour se réintégrer dans un autre système scolaire. C'était ça le but originel. Mais non, ce n'est pas du tout le même cas. Déjà, les lois en Suisse ont changé. Et le public qui participe à ces cours a aussi changé. Les objectifs d'enseignement ont changé. Et les stratégies d'enseignement ont aussi évolué. Et c'est ça qui nous montre l'article de Minichi, qui est très intéressant aussi, et qui, d'une certaine manière, ne se limite pas à la situation de l'italien, parce que c'est le même cas pour d'autres langues d'origine, comme l'espagnol, le portugais, et qui ont aussi vécu une évolution similaire. Et c'est ça qui ressort aussi de cet article.
Oui, merci beaucoup. Et là, je vais passer donc au deuxième volet, donc plus les langues cours et cultures d'origine, mais effectivement, les langues d'origine, elles sont aussi souvent mentionnées dans les plans d'études suisses et elles s'inscrivent dans des activités qui relèvent de la didactique du plurilinguisme, donc comme vous l'avez mentionné, éveil aux langues ou bien encore la méthode des comparaisons entre les langues. Plusieurs articles du numéro abordent cette thématique didactique et ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce qu'il en ressort en termes de potentiel et limites de ces approches.
Oui, en effet, comme on l'a dit auparavant, on a reçu plusieurs articles qui s'intéressaient aux langues d'origine dans un cadre vraiment d'éveil aux langues et non pas de cours de langue et culture d'origine. Et il y a en effet de grandes attentes en Suisse et ailleurs quant à l'éveil aux langues. On pense d'une part que ça va permettre aux élèves issus de la migration de vivre une reconnaissance de leur langue. Et puis aussi, pour les élèves monolingues, les élèves non issus de la migration, on pense que ça peut les sensibiliser au fait qu'il existe d'autres langues, que tout le monde n'est pas monolingue. Relativement peu d'études empiriques se sont en fait vraiment penchées sur ces effets positifs supposés de l'inclusion des langues d'origine en classe. Donc on a été très heureuse parce qu'on a reçu une étude de qualité, une étude empirique sur ces questions, l'étude de Lutti et Payer. Et en fait, dans cet article, les auteurs nous ont présenté les résultats d'une étude durant lesquelles des élèves de 11, 12 ans, puis 14, 15 ans, ils ont été filmés. En réalisant des activités plurilingues en groupe, du genre réveil aux langues, etc. Et puis, les auteurs ont réussi à montrer des effets qui étaient un petit peu moins intentionnels et un petit peu moins positifs. Entre autres, le phénomène d'othering, donc le fait de mettre l'élève migrant au centre, mettre la focale sur cet élève, qui peut être positif, mais qui peut aussi être vécu comme quelque chose d'assez traumatisant, surtout si l'élève ne parle en fait pas très bien la langue d'origine ou s'il n'a pas du tout envie d'être mis en avant comme ça. Et tu as dit que ces activités de type éveil aux langues sont mentionnées dans les plans d'études, donc c'est vrai. Mais en fait, une analyse des manuels, elle montre qu'enfin, quand il y a relativement peu d'activités qui apparaissent, que ce soit au niveau primaire ou secondaire, donc on en parle beaucoup, on est très positif, mais est-ce que c'est si positif que ça? Est-ce qu'on le fait tant que ça? Je pense que la question reste ouverte. D'où aussi ce que je disais avant, peut-être faire un jour un numéro sur l'éveil aux langues pour babyloniens.
Voilà, mais je pense aussi qu'il y a un autre point important qui ressort des articles de ce numéro, et c'est le fait que l'enseignement des langues d'origine va vraiment au-delà des approches d'éveil aux langues. Il y a des objectifs différents, disons en fait. Les objectifs des cours LCO, des approches éveil aux langues, ne sont pas exactement les mêmes. Parce que le but des cours LCO, au-delà de sensibiliser sur l'importance de la diversité linguistique et de sa valeur, qui est très, très importante, mais en fait, les cours LCO visent à que les élèves puissent vraiment maîtriser la langue d'origine, maintenir les langues d'origine, et ça implique énormément de travail, énormément d'engagement, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est pour ça que, moi, je trouve intéressante l'opinion de Zink, l'article « Opinion », qu'on a la chance d'avoir dans la revue, dans ce numéro. Zink prône justement pour une reconnaissance plus importante de l'enseignement des langues d'origine dans les cadres du système scolaire officiel. Elle prône pour une collaboration plus active entre les enseignantes de l'école officielle et celles des cours LCO. Moi, je pense que les approches éveil aux langues contribuent clairement au maintien des langues d'origine, mais qui ne sont pas nécessairement suffisantes pour maintenir les langues d'origine. On est d'accord. Par contre, disons, une politique éducative qui soutient activement l'enseignement des langues d'origine, comme ça s'est fait par exemple dans certaines régions d'Europe, peut éventuellement servir énormément aux objectifs des approches d'éveil aux langues. Parce que c'est là qu'il y a une véritable reconnaissance, une véritable valorisation de la diversité linguistique, en fait.
Merci pour vos réponses. Et avant de terminer, est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaiteriez nous transmettre, des questions que je n'ai pas posées?
Moi, je m'aurais évoqué un article de Flores et al. Qui s'est penché sur, justement sur le lien entre la langue d'origine et la langue de scolarisation. Cette étude, sur la base des données empiriques, s'intéresse à savoir si les cours de langue et culture d'origine ont un impact négatif sur l'apprentissage de la langue de scolarisation. Spoiler, non. Et après, si les cours de langue d'origine ont vraiment un effet positif sur la maîtrise de la langue cible, justement la langue d'origine. Ouais, cet article est assez intéressant dans ce sens-là.
Je pense qu'on a aussi une thématique qu'on n'a peut-être pas abordée, c'est cette particularité en fait, du contexte suisse qui est liée aux migrations internes, donc des enfants francophones ou des familles francophones qui vivent en Suisse alémanique ou le contraire, des Tessinois qui vivent en Suisse alémanique ou le contraire, et où on a en fait des élèves qui vont en cours de scolarité obligatoire et dont leur langue maternelle, leur langue d'origine, est enseignée comme une langue étrangère. Donc, par exemple, le français à Berne ou à Bâle. Je vous donne ces deux exemples parce que c'est les exemples qui sortent d'articles qu'on a reçus. Donc, on a, par exemple, Jezabel Robin, pardon, qui nous a présenté les résultats d'un projet qui portait sur les attentes des francophones dans le canton de Berne en ce qui concerne l'enseignement du français. Vraiment à la fois langue d'origine et langue étrangère pour leurs enfants. Et puis, on a aussi l'étude de Myriam Egli, qui, elle, nous présente du matériel pédagogique qui a été vraiment développé pour les francophones dans le canton de Bâle, pour non seulement parler de ce dont on a besoin, mais aussi pour créer du matériel adapté à ces élèves-là. Après, on a reçu plein de bons articles dont on n'a pas eu le temps de discuter, mais je crois qu'au niveau des grandes thématiques, je pense qu'on a fait le tour de notre numéro.
Merci beaucoup pour tous ces inputs. Alors, merci Amélia Lamblé, merci Véronica Sanchez. Nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Je souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de Babylonia à nos auditrices et auditeurs et vous dis à bientôt.
Et un grand merci au Cédil de nous mettre en évidence dans ces podcasts.